ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement. Est-ce que les personnes qui sont en vidéo voyaient bien l'image? Je ne sais pas si j'ai bien réussi mon partage d'écran. Voilà, enfin, je vous laisse entre les bonnes mains de Démile. Une actualité chasse l'autre. Nous avons eu cette semaine une actualité douloureuse qui nous a peut-être déjà fait oublier. La tempête Alex, mais souvenez-vous, ce n'était pas si loin que ça, c'était il y a à peine 10 jours. La tempête Alex s'est abattue sur les Alpes-Maritimes. Vous vous en souvenez? Des maisons ont été détruites, des routes ont été coupées. Du jour au lendemain, des villages se sont trouvés isolés du reste du monde. Cette rupture brutale des voies de communication m'a fait penser à une situation semblable décrite dans le livre des Juges. Donc ce message était destiné à l'église de Besançon, et voilà, ça a fait que je dois aussi le faire pour l'église de Lons, dont j'ai regardé dans mes archives, je l'avais déjà fait en 2016. J'espère que vous étiez soit absent, soit voilà, vous n'avez pas de mémoire et que cela ne sera pas une redite pour vous.
C'est plus que probable que ça soit la deuxième chose.
Donc, souvenez-vous, en 2016, nous avions parlé de Shamgar.
Bien sûr.
Et à son époque, la coupure des axes de communication avait isolé les villes d'Israël les unes des autres. Routes détruites, ponts coupés m'ont aussi fait penser aux situations de rupture que nous pouvons connaître. De la même manière que les villages sinistrés des Hautes-Alpes se trouvent isolés du reste du monde, nous pouvons être confrontés les uns ou les autres, à un moment donné de notre vie, à des ruptures de communication. Une expression résume cet état de fait, on dit « il a coupé les ponts ». Hein, donc on a un beau pont qui est coupé là sur l'image. Avez-vous déjà coupé les ponts avec le Seigneur? Avez-vous coupé les ponts avec votre église locale? Les voies de communication entre vous et votre conjoint, entre vous et vos proches, ou vos enfants, vos collaborateurs, ont-elles déjà été détruites par une tempête Alex? J'espère qu'il n'y a personne dans l'Assemblée qui s'appelle Alex. Vivez-vous une situation de rupture avec un trou béant, vous d'un côté et l'autre de l'autre? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit, car nous partons ce matin à la rencontre de Shamgar, le juge d'Israël, qui a rétabli les voies de communication entre les villes d'Israël. Et bien plus, au-delà de Shamgar, nous partons à la rencontre du Seigneur Jésus, le réparateur des brèches. 3 versets résument la vie de Shamgar. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 3, verset 31. « Et après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, et il frappa les Philistins, 600 hommes, avec un aiguillon à bœuf, et il sauva lui aussi Israël. » Et dans le chapitre 5, les versets 6 et 7, « Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les chemins étaient délaissés, et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés. Des villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient délaissées. » Le message ce matin comportera 3 points. Nous ferons d'abord l'état des lieux, de ce qui dysfonctionne, quel est le problème. Et puis nous décrirons la manière dont la situation s'est débloquée, quelle est notre espérance. Et enfin, nous essaierons de comprendre comment on passe de la situation 1 à la situation 2, en nous posant la question, quel est le chemin de la délivrance? Alors, tout d'abord, première partie, une situation bloquée. Dans le livre des Juges, le peuple d'Israël fait face à de nombreuses difficultés. Au chapitre 3, il y a la servitude, encore une servitude au chapitre 3, ça en fait 2. Toujours au chapitre 4, l'oppression de Jabin, et au chapitre 6, le pillage des Madianites et des Amalécites. Au chapitre 10, l'oppression des Philistins et des Ammonites. Ces agressions sont souvent localisées, elles ne concernent pas l'ensemble des 12 tribus d'Israël en même temps, et l'histoire nous apprendra qu'Israël essaiera de mettre fin à ces agressions en établissant la royauté avec le roi Saül, mais que cela ne sera pas la solution. Alors, pour ce qui nous concerne ce matin, Shamgar doit faire face à une difficulté originale, qui est décrite par le chant de Déborah et de Barak dans le cantique du chapitre 5 que l'on a lu. Les voies de communication sont coupées. Et donc l'image, les images que nous voyons montrent bien quel est le problème, on ne passe plus. Donc au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Les Philistins ne font pas la conquête du pays ou des villes d'Israël, mais ils en occupent les points stratégiques qui empêchent la circulation des hommes et des marchandises. On peut penser qu'il y avait des embuscades qui empêchaient les gens de passer en sérénité. Et donc, du coup, entre les différentes villes, eh ben, il n'y avait plus de communication en raison de cette insécurité. La rupture des voies de communication peut être dans différents domaines. Dans le plan spirituel, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, au niveau familial, entre conjoints, entre parents, entre enfants, avec la famille élargie, dans le plan, sur le plan professionnel, rupture entre deux collaborateurs, entre un patron et son employé, sur le plan social, entre un citoyen et le reste de la société, ou dans l'église, rupture entre deux membres d'une même église, entre une personne et l'église tout entière, ou entre des différentes églises. Et lorsqu'il y a rupture, les marchandises et les hommes ne peuvent plus circuler, et donc les conséquences sont douloureuses. C'est bien ennuyeux, parce qu'au niveau spirituel, si on est coupé de Dieu, et bien on ne peut plus recevoir quoi que ce soit de sa part, on ne peut plus recevoir sa lumière. Au niveau familial, ben, si on est coupé, ben, il n'y a plus de solidarité. Au niveau professionnel, la communication ne passe plus, un esprit de jugement risque de s'installer dans l'entreprise. Au niveau social, ben, ça produit un isolement. Au niveau de l'Église, eh bien, le fait de ne plus fréquenter l'Église, il y a une perte du bénéfice des dons et des ministères pour cause d'absence, de blocage ou de perception déformée de la réalité, ce que les personnes apportant étant vues à travers un filtre déformant et finalement ne servant plus à rien. Et aussi, notre risque, c'est la fragmentation du corps de Christ. Donc les causes de ces ruptures peuvent être multiples. Il y a difficulté de la vie, un travail excessif, l'accident, la maladie, un divorce, une perte d'emploi, des mauvaises influences. On peut voir par exemple des personnes abandonner le Christ, ne plus vouloir venir à l'église à cause de leur pression familiale, parce qu'ils disent que c'est une secte, par exemple. Il peut y avoir des dépendances, le jeu, l'alcool, la drogue, le sport, ou autre chose encore qui font que ben, on préfère ceci à la place du reste. Un choc émotionnel, un ressentiment, une rupture, une injustice qu'on nous aurait commis, qu'on aurait ressenti, réel ou imaginaire. On dit ça me reste en travers de la gorge et donc ça étouffe. Ben, c'est bien une rupture du voie de communication puisque l'air ne circule plus. Ça peut être aussi une épidémie, la peur du coronavirus, un mauvais usage, une distanciation sociale. On sort pour faire ses courses, mais on a peur de venir à l'église, par exemple. Une mauvaise conception de l'église ou de la vie chrétienne qui est pensée tout seul. Tout ça sont des facteurs conjugués qui produisent à des ruptures de voies de communication. Et cette rupture n'est pas normale, car Jésus-Christ a déchiré le voile. Il a ouvert un chemin nouveau et vivant entre Dieu et les hommes. Alors, comment faire lorsque les chemins sont fermés? Deuxième constat, il est écrit « Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés ». La fermeture des voies de communication oblige les habitants des Hautes-Alpes à prendre d'autres chemins. La voie normale est bouchée, inondation, route inondée, on comprend qu'il ne faut pas passer. Et donc, vous avez sans doute vu que c'est souvent l'hélicoptère qui est utilisé dans ces cas-là, et aussi des itinéraires bis qui, dans leur cas, passaient par l'Italie. Alors, certes, on communique, mais c'est pas facile. C'est un peu, on va dire, au compte-goutte. Alors, le chemin détourné, il ne résout pas la situation de blocage, mais il permet de vivre avec, ou en tout cas de survivre. C'est une adaptation à la réalité. Par exemple, Gédéon, du temps où les Madianites venaient piller les récoltes, ben ça, son itinéraire B, c'était de battre le blé dans une caverne à l'abri de tout le monde. Et au moins, il récupère du blé, mais par contre, la moisson en Israël, au moment où c'était un temps de réjouissance commune, ben ça s'est perdu. C'est un itinéraire B. Alors, dans votre vie, vous êtes sur un chemin détourné, dans un itinéraire bis, quand vous dites « avec un tel, c'est compliqué », c'est-à-dire que je ne peux pas agir normalement. Ou encore, lorsque on convient qu'il est préférable de cesser les relations. Donc là, vous êtes effectivement dans un itinéraire bis. Avec le temps, les chemins détournés risquent de gagner en légitimité et de sembler être le chemin normal. Et le danger, c'est d'oublier que l'itinéraire biblique n'est pas l'itinéraire principal. Et que, une fois que l'inondation est partie et que les chemins sont restaurés, c'est la voie normale, la plus droite, qu'il faut prendre. Et donc le danger, quand on s'est habitué à des itinéraires bis, et donc dans des familles dysfonctionnelles, on voit que c'est les itinéraires bis qui prévaut. Et bien, le danger, c'est quand l'Esprit de Dieu nous touche, nous réveille et voudrait nous faire évoluer, et bien, le risque, c'est de résister en demeurant sur les chemins détournés parce qu'ils apparaissent étant les chemins principaux. Et donc, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises. Aussi, dans les églises, on voit qu'il y a parfois des mauvaises habitudes qui sont prises quand on essaie de restaurer les choses. C'est difficile. Alors, comment éviter que ces chemins détournés deviennent la norme? Troisième et dernier élément de ce constat, eh bien, il est écrit « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force ». Donc, c'est le verset 7 du chapitre 5 du livre des Juges. Et donc, on ne sait pas trop s'il faut traduire par les chefs ou par les villes. Mais dans le contexte, si on regarde le verset 2, on voit que Déborah et Barak se réjouissent que des chefs se soient levés. Donc le mot chef peut être le mot ville peut être remplacé par chef. Et on comprend donc que dans la situation qu'a vécu le peuple d'Israël au temps des juges, les chefs, les autorités, ceux qui normalement sont censés faire respecter l'ordre et que tout assurer la vie sereine de la nation, étaient incapables d'agir, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Alors quand la tempête Alex est passée, vous voyez, on a eu affaire à des trombes, à des puissances. Donc là, on a un torrent qui coule où il ne faudrait pas, hein, et on ne va pas s'amuser à aller vers le torrent en disant « Non, 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 on ne passe pas !» Donc, ça veut dire que quand on est dans une situation où les voies de communication sont coupées, on a affaire à des puissances qui nous dépassent. On peut penser par exemple à un père qui est séparé de son enfant, et puis dans la tête de son gamin, c'est très arrêté, qu'il ne veut plus de relation avec sa famille. On voit bien que derrière son choix de rester distant de la famille, il y a des puissances. Et c'est bien aussi imposant que ces éléments-là. Et donc, parfois, on se retrouve impuissant, incapable, on ne sait pas comment on va faire pour que la situation s'améliore. On a beau chercher, ça nous dépasse. Et donc, la solution provisoire, c'est de se mettre à l'abri et de supporter la tempête. La restauration viendra après, peut-être. Ces ruptures de communication ne sont finalement que le sommet de l'iceberg. Il y a une profondeur dessous, avec des puissances qui agissent ou qui ont agi, qui font que les choses sont comme ça. Ces forces sont considérables, et donc, comment triompher de ces puissances d'isolement? Alors, nous voici maintenant dans notre deuxième partie, une situation débloquée. Donc, à l'issue, nous avons, de la première partie, on a dressé un bilan et posé beaucoup de questions, et cette seconde partie va proclamer qu'il est possible d'espérer. En effet, lorsqu'on vit une situation de blocage, on l'a quand même bien décrite jusqu'à présent, nos yeux sont fixés sur les verrous, sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui ne marche pas. Et nos émotions sont centrées sur notre mal-être. Nos forces sont utilisées pour s'adapter à la réalité. Et donc, cette deuxième partie nous invite à lever les yeux vers un sauveur et à contempler comment le salut de Dieu s'accomplit. Avec trois points, un chef qui se lève, un ennemi détruit et un moyen dérisoire. Alors, tout d'abord, nous voyons au verset suivant, après Ehud, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Dans le livre des Juges, en face de chaque oppresseur, il y a toujours un sauveur. Au chapitre 3, c'était Othniel. Au chapitre 3, de nouveau, c'est Ehud. Au chapitre 3 encore, c'est Shamgar. Et donc, quand on vit une situation de rupture, on ne les voit pas toujours, mais savez-vous que vous êtes environné de personnes ressources, d'une grande nuée de témoins. Ce que vous vivez a probablement été vécu par les David, les Joseph, les Sarah et autres figures de la foi. Pierre, dans son épître, va même plus loin en décrivant en 1 Pierre 5, verset 9, que les mêmes souffrances ont été imposées à nos frères dans le monde. Il place cette nuée de témoins non plus derrière nous, mais autour de nous. Vous n'êtes donc pas seul à vivre des tempêtes. De la même manière que Dieu a placé des libérateurs dans l'ancien temps, il place auprès de vous des frères et des sœurs qui pourront vous accompagner plus loin dans les chemins de rupture que vous vivez aujourd'hui. Ces hommes et ces sourds et ces femmes, ressources, prennent leur place après d'autres et sont invités à servir à la suite d'eux. Le service se place dans la continuité. Donc, premier élément de la vie de Dieu, le salut de Dieu s'incarne, il y a un homme qui se lève. Deuxième élément, il y a une arme dérisoire qui est utilisée. En face de l'adversaire, Dieu place un homme armé d'un aiguillon à bœuf. Alors, comme on n'est pas tous, on n'a pas tous vécu dans la campagne, peut-être le grand-père d'Adrien sait ce que c'est un aiguillon à bœuf. Vous avez peut-être vu, moi j'en ai pour ma part jamais vu, donc du coup je vous ai pris la photo. Et donc ça date des années 75 et on voit qu'un aiguillon à bœuf, ça ressemble grosso modo à un bâton pointu. Et il faut quand même se dire qu'en face, les Philistins, ils maîtrisaient la technologie du fer. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de fabriquer des armes en fer, avec des pointes de flèches en fer, des lances en fer, des épées en fer. Et donc c'est comme si on oppose à une Kalachnikov un couteau, hein, suisse. Même suisse. On voit bien qu'il y a une disproportion au niveau des armes. Et donc c'est une constante dans le livre des juges. Les armes utilisées sont toujours dérisoires par rapport à la force de l'adversaire. Samson ou une mâchoire d'âne. Et le nombre d'adversaires est toujours beaucoup plus important que le nombre de libérateurs. Shamgar vs versus 600 Philistins. Donc ces récits bibliques nous font bien comprendre qu'au-delà de l'homme, de nos actions, de notre intelligence, de notre puissance, de notre savoir-faire, de notre pédagogie, il y a un Dieu tout-puissant qui agit. Dieu accomplit une œuvre secrète. La puissance n'est pas dans l'outil, dans l'homme, mais dans l'esprit qui anime l'outil ou qui va animer le serviteur. Dieu fait ce que l'on ne peut pas faire, et donc, je cite une phrase célèbre, « Si nous avions voulu le faire, nous n'y serions pas arrivés. » Il faut donc s'attendre, et ça c'est notre espérance, à ce que Dieu agisse au-delà de nos espérances. Dans leur cantique, Déborah et Barak ne s'y trompent pas, le chant qui est entonné en honneur du Dieu d'Israël, et non pas en honneur de celui qui a agi en son nom. Donc, deuxième élément de la situation débloquée, Dieu agit avec puissance. Troisième élément, il y a une destruction, puisqu'il est écrit, il bâtit 600 Philistins. Donc il y avait donc au moins 600 hommes en armes qui contrôlaient ces sentiers. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de puissance qui retiennent, on en a ici une expression. On peut imaginer ce que c'est. Suite à la tempête, des monticules d'arbres, de boue, de déchets de toutes sortes ont bloqué les voies de communication. Donc le bouchon est considérable. Et dans nos relations, des fois, on en est réduit à cette image. Il y a des choses qui se sont accumulées avec le temps. Et du coup, bah, il faut dégager tout ça pour que ça puisse être libéré, pour qu'il y ait une libération. Il faut donc nous attendre à être confrontés à des puissances. Ce qui empêche d'être en relation doit être enlevé. Et donc, la présidence d'Alain, en plaçant l'importance de la repentance, qui précède la restauration, est la clé de la restauration. Ce qui empêche doit être enlevé, il est nécessaire pour cela d'entrer dans la tête de l'autre, pour amener toute pensée, toute puissance captive à l'obéissance de Christ. Cette pensée a des racines profondes, basées sur l'expérience, le ressenti, le passé. Il faut donc aller au charbon, toucher l'adversaire avec l'aiguillon des Écritures, afin de libérer la voie, alors même que celui qui t'a servi n'a peut-être pas envie d'évoluer. et que lui, il se trouve très bien de l'autre côté du pont. Quelle que soit la force de l'adversaire, Dieu est puissant pour détruire les forteresses. Nous sommes conscients de la force de l'adversaire et de ce que cela impacte dans notre vie en souffrance. Mais est-ce que nous sommes conscients de la puissance de Dieu et de sa capacité à restaurer? Le récit des délivrances que nous voyons dans les Écritures nous aide à lever les yeux, à voir au-delà de tout ce qui obstrue et de voir cette puissance qui libère. Alors, nous avons vu dans notre première partie la situation bloquée, la deuxième partie, la situation bloquée, et on aimerait bien, pour nous-mêmes, passer du point 1 au point 2. Et on pourrait donc se poser la question, comment faire pour passer d'une situation bloquée à une situation débloquée? Qu'est-ce que je suis en droit d'espérer? Eh bien, voici cinq points tirés de ce texte et du contexte qui vont nous aider à avancer vers une situation débloquée. Premier point, première image, décréter l'état de catastrophe spirituelle. Peu de temps après la tempête, le Conseil des ministres s'est réuni et a décrété l'état de catastrophe naturelle. Le problème, la tempête Alex, a été reconnu publiquement. Les sinistrés vont pouvoir bénéficier des aides de leur assurance et de moyens démultipliés de l'État. Et donc, il est nécessaire d'avoir un regard lucide sur nos dysfonctionnements. Tant qu'on pense que c'est normal de ne pas parler à son conjoint, que c'est normal de ne pas vivre en communion avec une église locale, et que c'est normal que dans la famille, les enfants ne communiquent pas avec les parents, on ne risque pas de faire évoluer les choses. Il faut tout d'abord prendre conscience d'un dysfonctionnement. Et c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui va nous montrer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui dysfonctionne. Et donc ça s'appelle la repentance et la conversion. Au regard des Écritures, il est nécessaire de reconnaître ce qui ne va pas et de désirer aller vers ce qui convient. Un long temps est parfois nécessaire avant d'arriver au point ou à l'état de catastrophe spirituelle décrétée. Le chapitre 3 du livre des Juges donne des indications de temps. Au verset 8, il est écrit « Ils lui furent soumis pendant 8 ans ». Au verset 14, « Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Eglon ». On peut donc voir que les dysfonctionnements, les ruptures, peuvent durer longtemps. Ces temps d'attente ne sont pas nécessairement des temps voulus par Dieu. Il s'agit souvent du temps nécessaire pour qu'on se rende compte des choses, qu'on décrétait l'état de catastrophe naturelle. Ici, spirituel. Cette prise de conscience permet de passer à l'étape 2 de notre chemin de libération, la supplication. Voilà, quand on est saisi de ce qui ne va pas dans notre vie, eh bien, notre attitude normale, je dirais, c'est de crier à l'Éternel. Alors, cette prise de conscience ne nous rend pas plus fort. Hein. Quand les citoyens, les élus des Hautes-Alpes ont parlé de leur malheur à M. Macron, ben, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas plus forts pour autant. Il y avait toujours les voies cassées et les chemins obstrués. Donc la demande ne rend pas plus fort. Mais par contre, elle peut provoquer le bras de l'État ou faire bouger le bras de Dieu. Et dans le livre des juges, chaque fois qu'il y a eu repentance et supplication, il y a toujours eu délivrance dans le livre des juges. Alors, une bonne vision de Dieu, du soi et des autres est nécessaire pour une prière efficace. Jacques 4, verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Peut-être que quand on prie, on prie trop en ayant intégré les chemins détournés et on ne voit pas assez finalement dans quelle direction le Seigneur veut que l'on prie. Alors, vous demandez et vous ne recevez pas. Il est nécessaire de penser juste pour prier juste
Mais il est parfois aussi nécessaire de comprendre que, comme l'action de Dieu, c'est aussi une sorte, j'allais dire, d'apocalypse, hein, la vérité manifestée, il y a une sorte de jugement, ben Dieu fait grâce aussi, et use de patience, et permet que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher subisse des injustices et des situations douloureuses de la part de son entourage. Alors, crier à l'Éternel, les habitants ont parlé à M. Macron, M. Macron a dit, on va venir, on va agir. Donc nous aussi, quand on prie, il faut s'attendre à laisser Dieu agir, et peut-être parfois accepter de se mettre de côté. C'est difficile, hein. On a ce verset, les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et les opprimaient avec violence depuis 20 ans. On voit cette puissance. Et puis moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez un bulldozer dans votre garage pour enlever les gravats? Les habitants des villages sinistrés n'étaient pas en capacité d'enlever les obstacles par eux-mêmes. Ils avaient besoin que l'État agisse, des moyens de l'État. Nous aussi, nous avons besoin de cette action de l'Esprit de Dieu pour rétablir les axes de communication détruits. Mais cette action est rarement bulldozeresque. Voilà comment se manifeste l'œuvre de Dieu. Et là, on répète un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. L'action de Dieu s'incarne, elle utilise des serviteurs. Shamgar, par exemple. Donc le mythe du chrétien, seul avec son Dieu, qui gère les situations, pas forcément très scripturaire, même si il y a aussi des exemples dans ce sens-là. Mais globalement, dans les Écritures, le salut de Dieu s'incarne. L'action de Dieu, c'est un jugement. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Il y a un ennemi qui doit être détruit. Alors quand je parle d'ennemi, je ne parle pas de détruire physiquement quelqu'un en lui coupant la tête. Hein. Je parle d'une puissance qui nous bloque intérieurement. Mais il y a vraiment un combat. Et l'œuvre de Dieu, ça passe par la manifestation de la lumière, la mise en lumière de ce qui ne va pas et le jugement. Et comme le dit le Seigneur, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. L'action de Dieu, elle produit le fruit de l'esprit. Donc elle va produire la joie, la paix, l'amour, la sérénité. Elle ne va pas produire le découragement, s'apitoyer sur soi-même ou la colère. L'action de Dieu, elle peut prendre du temps. Tout ne sera pas reconstruit en quelques mois. M. Macron disait, il faudra des années pour reconstruire les routes. L'important n'est pas que tout soit reconstruit, mais c'est d'être en route, en chemin, en marche. L'action de Dieu, elle est aussi donnée en espérance. Certaines situations liées à la présence du péché dans le monde, on sait que le péché est une puissance qui existe et puis qui ne sera finalement maîtrisée que quand on sera dans la présence de Dieu, là toute ombre aura disparu, mais tant qu'on est sur la terre, le péché, la puissance du péché se manifeste. Il y a certaines situations liées à cette puissance qui ne vont pas changer. Et il n'y aura pas de délivrance. Il va y avoir simplement une attente, une persévérance dans l'épreuve. Donc la délivrance, ce n'est pas forcément, je dirais, obligatoire. Il peut y avoir, malheureusement, des situations qui perdurent. Donc l'action de Dieu, elle est donnée en espérance. Et tout ça, c'est également vrai. À la fois cette puissance de Dieu qui agit ici et maintenant, mais cette puissance de Dieu qui est donnée en espérance. Élément suivant, l'importance de, on va faire avancer encore un peu, on a un peu l'image, de discerner le temps. Alors là, je m'appuie sur ce verset du chapitre 5. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Donc, on se rappelle que pendant de nombreuses années, le peuple d'Israël était soumis à ses oppresseurs. Et puis, il y a eu un chemin intérieur de la part du peuple la repentance, la supplication, et Dieu suscite un moyen, un juge, pour les délivrer. Et donc là, on voit qu'on est exhorté à être de cœur, d'être avec ce juge, avec ce moyen. C'est-à-dire que quand Dieu nous montre la délivrance, alors ça peut être par des circonstances, ça peut être par un accompagnement, une parole encourageante, on peut dire d'une certaine manière la parole de l'évangile peut jouer ce rôle-là, alors on a besoin de la saisir et de la faire nôtre, d'être un avec ce qui vient de l'Éternel. On a vécu ça en Église avec l'abbé François, qui vraiment nous a semblé, ça fait déjà quelques années, comme envoyé de la part de Dieu pour édifier notre Église. Et donc on s'est positionné en tant que conseil à ses côtés, on a dit, pas aux côtés de François, mais en disant, voilà, on discerne que c'est l'œuvre de Dieu, et cet homme va nous apporter, nous est envoyé, nous l'accueillons. Et ça n'a pas été forcément très simple de le faire accepter par tout le monde. Et donc il fallait prendre position et de cœur discerner finalement que c'était le moment de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et quand on est dans cet état d'esprit, alors du coup on va pouvoir avoir les bénéfices de comme on est de cœur avec le Seigneur, eh bien il nous donne sa sainteté, il nous donne sa force, et le Seigneur dit celui qui accueille un prophète a une récompense de prophète. On accueille aussi la bénédiction dont la personne est porteuse. Donc il faut à un moment donné, malgré, je dirais, qu'on ait peut-être senti dans le passé qu'on a été abusé ou qu'on a été découragé, ouvrir son cœur et accepter finalement ce que le Seigneur nous donne par l'un ou par l'autre, par une circonstance ou par une autre. Cinquième élément, donc toujours pour progresser vers ce mieux-être dans nos relations, eh bien, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et le chapitre 2 des juges nous dit, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Avec la description des infrastructures, la question de la reconstruction s'est posée. Et les autorités ont affirmé leur volonté de ne pas reconstruire à l'identique, c'est-à-dire dans les zones inondables. Sinon, on va être condamné, peu de temps après, à revivre une tempête à l'Est. Enfin, la tempête passera de toute façon, qu'on ait construit en zone inondable ou pas, mais selon si on a construit en zone inondable ou en zone pas inondable, on n'aura pas les mêmes effets. Alors, la délivrance, l'action de Dieu, elle ne dure pas si notre hygiène de vie n'est pas saine. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et donc, il est important d'avoir des bases de vie saines si on ne veut pas avoir une vie spirituelle en dents de scie. Le Seigneur me délivre, je retombe, et le Seigneur me redélivre, etc. Donc, d'établir des bases de vie saines. Sans discipline de vie, une nouvelle servitude risque de remplacer la délivrance. Et donc, nous sommes invités par cette situation d'actualité, à sonder finalement quelles sont nos bases, nos fondements. Est-ce qu'on est sur des bases de communication saines, ou est-ce qu'il y a encore de l'argile qui est sous nos pieds? Et donc nous sommes invités à construire notre vie sur un rocher, sur des choses qui sont dures, qui sont solides et qui vont perdurer au-delà des tempêtes et des vents. Nous sommes aussi invités à être vigilants à tout ce qui pourrait, en particulier dans la vie d'une église, couper, détruire une harmonie en immisçant de l'amertume ou un esprit de jugement. Il nous faut faire attention à bien veiller sur nous-mêmes afin de rester sur des bonnes bases. Alors si on est sur des bases molles, aller sur une base solide. Et si on est sur une base solide, tenir ferme afin de pouvoir perdurer. Alors que dire en conclusion? Bien, comme j'ai commenté que trois versets, je me permets de me lâcher un petit peu
au niveau de la conclusion avec un extrait de ce chapitre 5 du livre des juges que je vous invite à lire entièrement à la maison. Et donc, tout d'abord, la reconnaissance. Éternel, quand tu es sorti de Séir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau, les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc je nous souhaite dans notre vie de connaître ces délivrances et on a besoin parfois que le Seigneur il remue les montagnes qui obstruent et je souhaite de connaître ces délivrances et d'être le dimanche avec le cœur rempli de louanges parce que le Seigneur vous aura restauré. Deuxième idée dans ce cantique, c'est l'expérience. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Alors, les combats décrits au chapitre 3 et 4, ils ont forgé une expérience. Ils ont donc un rôle pédagogique, conformément à ce qui est écrit aussi en Juges 3, verset 2, où il nous est dit, l'Éternel voulait que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Donc, sachez que c'est dans le projet de Dieu pour votre vie que vous connaissiez et que vous apprenez la guerre. Non pas encore là qu'il va falloir couper des têtes, mais lutter contre des puissances. Les difficultés ne sont pas voulues par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui choisit que les difficultés arrivent. Mais il utilise les attaques de l'adversaire pour nous apprendre à combattre. Et en ce sens-là, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Donc, gloire à Dieu pour ces temps de combat et qui permettent de forger chez vous, comme chez moi, une expérience de combat, de combattant. Et donc, celui qui a de l'expérience dans le combat peut plus facilement compatir avec celui qui vit des combats et l'encourager en lui disant, par ses paroles, par son exemple, par sa présence. Troisième idée dans cette conclusion, c'est l'espérance et le repos. Donc ça, on trouve à la fin du chapitre 5, collé côte à côte, quasiment, on a « que tous les ennemis disparaissent ainsi éternel, et le pays fut en paix pendant 40 ans ». Donc alors même qu'elle vient de vivre une délivrance, Déborah se rend bien compte que le combat n'est pas terminé. Un ennemi a été vaincu et d'autres vont se lever. Cependant, Dieu permet également, et donc on est toujours dans cette chronologie-là. Et Dieu permet cependant dans sa grâce que nous vivions des fois des périodes de paix. Et je vous souhaite aussi, je le souhaite particulièrement à certaines personnes dans notre Église qui, depuis de nombreux mois, sont en difficulté, que le Seigneur vous accorde une période de repos. Car on trouve aussi dans ce texte, certes, des périodes d'oppression, mais aussi il y a le pays fut en paix pendant 40 ans. Je souhaite de connaître ces temps de repos de tout cœur et on est en église tous les jeudis pour intercéder pour vous, pour que le Seigneur vous accorde ce repos et la patience dans la détresse. Et le dernier thème de cet extrait du chapitre 5, et ça finit comme une apothéose, c'est une invitation. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, dis un cantique. Donc quatre fois, donc il faut dire quelqu'un qui dort, on va le secouer. Réveille-toi. Dis un cantique, lève-toi, Barak, et amène captif tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, Déborah nous invite à nous réveiller. Il est temps d'arrêter de prendre des chemins détournés. Il est temps de déblayer les obstacles, de construire des chemins droits. Et si c'est le temps choisi par Dieu pour se lever, alors lève-toi, cesse de te résigner sur tes blocages,
Et je l'ai écrit en gros parce que c'est la traduction de ce verset dans la version Darby. Amène captive ta captivité. Ce qui me maintient captif, c'est pas ça qui doit me faire peur, mais c'est la captivité qui doit avoir peur, pas de moi, mais en fait c'est pas de moi, c'est de ce que le Seigneur agit en moi, parce que par la force du Christ, cette captivité sera amenée captive. Et je trouve que c'est une super conclusion. Eh bien, voilà, soyons des frères et des sœurs qui amenons captive la captivité. Nous laissons pas enfermer dans des chemins éloignés les uns des autres, mais sachons, autant que le Seigneur nous le permet, si c'est le moment que le Seigneur nous parle alors, et que c'est son temps pour nous délivrer, alors que ma captivité, que ta captivité soit amenée captive, et que tu puisses être tout au Seigneur pour pouvoir chanter ses louanges. Amen. Amen.
Merci.